Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Religion du monde, enregistrée à Marseille, au Théâtre de la Criée, où s'achève ce dimanche la 25e édition des Rencontres d'Averroès, qui ont pour thème cette année cette interrogation: quelle relation entre les sexes d'hier à demain en Méditerranée? Vaste question. Pour y répondre, quatre tables rondes. Et Religion du monde s'est naturellement intéressée à celle qui a réuni deux théologiennes, une catholique, une musulmane, un philosophe et théologien juif et une historienne, et qui a porté sur le rôle des textes sacrés et profanes dans la relation homme-femme en Méditerranée. Alors, sauf le rabbin Marc-Alain Waknin, qui a repris son train malheureusement après son intervention, nous retrouvons les protagonistes de cette table ronde. L'historienne et essayiste franco-tunisienne Sophie Bessis, Monique Beaujard, théologienne, ancienne directrice du service national famille et société à la conférence des évêques de France, Asma Lamrabet, médecin, théologienne marocaine et féministe musulmane, et puis Thierry Favre, le fondateur des Journées d'Averroès, dont la première édition remonte à 1993. À vous
94.
Tous. Oh, pardon, 94. À vous tous, merci d'être autour de cette table. Et bien justement, je commence avec vous, Thierry Favre. En 1994, vous fondez les Journées d'Averroès. Alors, quelques petits mots quand même sur ce philosophe, médecin, juriste musulman du XIIe siècle.
Les Rencontres d'Averroès, outre le nom de, de cette figure d'Averroès, d'Ivan Rush, c'est sous-titré « Penser la Méditerranée des deux rives ». Et c'était l'idée, à partir de Marseille, de se donner les moyens de réfléchir ensemble à ce qui se joue en Méditerranée. Et de ce point de vue-là, la figure d'Averroès était très importante parce que, d'une part, il est l'incarnation, l'expression, ce qu'on pourrait dire, d'une pensée critique dans l'islam, d'un rapport à la raison. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui enjambe les deux rives, non seulement par sa vie, puisqu'il est né à Cordoue et mort à Marrakech, mais surtout par son œuvre, parce que c'est quelqu'un qui est un transmetteur, et notamment un transmetteur de la pensée de la grande philosophie d'Aristote, et qui n'a sans cesse été repris à travers l'histoire, notamment par saint Thomas d'Aquin. Et donc, avec Alain de Libera, qui est un philosophe qui est aujourd'hui au Collège de France, il avait fait un grand livre qui s'appelait « Pensée au Moyen-Âge », dans lequel il y avait un chapitre, et m'importe beaucoup, qui s'appelait « L'héritage oublié ». Et donc, les sources arabes et judéo-arabes de la culture européenne. Parce que quand on parle de la culture européenne, on parle souvent de l'héritage gréco-latin, voire judéo-chrétien, mais on oublie toujours cette dimension judéo-arabe, c'était ce qui vient d'Al-Andalus ou de la Sicile, et qui fait le cœur, un des autres éléments fondateurs des sources de la pensée et de la culture. Et c'est ça que les Rencontres d'Averroès, à partir de Marseille, essayent de faire apparaître dans le temps long, mais aussi dans les débats les plus contemporains.
Alors l'horizon que vous visiez, que vous continuez de viser, c'est créer un pont entre les deux rives de la Méditerranée.
Bah, écoutez, il y a tellement de forces qui cherchent à les séparer qu'il me semblait important qu'il y en ait d'autres qui tentent de les réunir. Non pas de les confondre, mais de l'idée de fabriquer du commun, d'un espace commun, d'un espace de délibération. Puisque les Rencontres d'Averroès, elles ont lieu dans un théâtre. Et un théâtre, c'est le lieu de la parole dans la cité où on peut avoir des débats, des controverses, où on peut tomber d'accord sur des désaccords. Et notamment quand on parle de questions de textes religieux, de relations hommes-femmes, ou qu'on a parlé de colonialisme, ou de toutes les questions d'actualité, eh bien, il y a une violence qui peut être là. Or, là, il y a une écoute qui est né, et c'est justement retisser des fils qu'on en a tendance à oublier et organiser cette agora contemporaine. C'est ça le sens et la raison d'être des Rencontres d'Averroès.
L'esprit d'Averroès. Alors cette année, vous avez choisi effectivement ce thème des relations hommes-femmes. Déjà, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une année où on a beaucoup parlé des femmes? Est-ce que c'est effectivement l'année MeToo, j'allais
non,
dire?
Non, c'est pas pour être justement prisonnier de l'actualité. C'est de se saisir de l'actualité pour essayer de comprendre s'il s'agit uniquement d'un phénomène de superficiel ou est-ce qu'il s'agit d'un mouvement en profondeur? Est-ce qu'il s'agit d'une révolution anthropologique? Mon hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un mouvement qui vient de très loin et qui touche différents types de catégories. On l'a vu dans les mobilisations aujourd'hui, c'est les infirmières, jusque aux rencontres de Blois, des historiennes qui font des pétitions en disant la place des femmes dans l'histoire, etc. Des théologiennes, sur tous les champs de la société. Et ça se pose à l'échelle mondiale, mais qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'une rive et de l'autre de la Méditerranée. Et c'est là le sens des rencontres d'Averroès, c'est-à-dire de ne pas être prisonnier des grands débats globalisés où tout est dans tout, mais d'essayer de se retrouver dans notre monde, qui est le monde méditerranéen, qu'on sent si bien à partir de Marseille, cette ville, cette sismographe qui réagit à ce qui se joue en Méditerranée, et comprendre ce qui naît dans la question des relations entre les sexes en Méditerranée. Je crois que c'est une vraie question et on a vu à l'occasion des débats qu'on n'était pas tout à fait passé à côté.
Alors je vais vous poser la question, puis je poserai la question à chacune d'entre vous. Est-ce que vous avez le sentiment actuellement que se déroule une révolution anthropologique, alors effectivement au nord de la Méditerranée, oui, mais au sud de la Méditerranée? Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Thierry Fab, et puis après on fera un tour de table?
Je crois qu'on est beaucoup pétri de clichés et qu'on ne va pas assez à l'écoute de ce qui rythme les sociétés de l'intérieur. Et l'intérêt des rencontres d'Averroès, c'est justement d'associer des spécialistes qui peuvent nous permettre d'accéder un peu mieux à l'intérieur des pulsations profondes qui se jouent dans ces sociétés. Et je crois que ces révolutions, on l'a vu avec les mobilisations, parce que ça ne se joue pas simplement dans le monde arabe et dans l'islam. Ça se joue par exemple en Espagne, qui est un pays qui a un record de la violence faite aux femmes, du virilisme, et donc il y a une mobilisation très très forte qui a lieu en Espagne et qui se joue dans les sociétés européennes. Elle se joue aussi dans les sociétés du Maghreb et plus largement dans l'ensemble du monde arabe ou en Turquie. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de comprendre, au-delà justement de ce qui fait écran. Parce que n'oublions pas que ces sociétés sont jeunes et qu'elles sont porteuses d'autres choses. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une promesse qui peut-être est en train de voir le jour. Et je ne voudrais pas, justement, désespérer de ce monde méditerranéen qui est si traversé de violences, de guerres, de replis, comme on peut le voir aujourd'hui.
Alors, je vais commencer ce tour de table avec vous, Sophie Bessis. Donc, vous êtes franco-tunisienne, vous êtes historienne. Vous avez effectivement pratiqué, j'allais dire, beaucoup de métiers dans votre vie, puisque vous avez effectivement, vous avez beaucoup regardé du côté du développement, de l'économie subsaharienne, etc. Comment voyez-vous aujourd'hui cette révolution anthropologique, par exemple, dans votre pays, la Tunisie ? Il n'y a pas si longtemps, on a appris, c'est en 2017, c'est quand même extrêmement important, une femme tunisienne musulmane pourrait épouser un non-musulman. Ça, c'est une révolution, ça ?
Oui, cela dit, c'est un retour. Mais je voudrais d'abord répondre de la façon la plus générale. Oui, je pense qu'il y a, depuis un demi-siècle, aussi bien dans le monde que dans le monde méditerranéen, que dans la rive sud de la Méditerranée, une révolution des rapports de genre. Et cette révolution des rapports de genre est extrêmement importante. On peut en voir des manifestations multiples et variées. Je parlerai pas évidemment de la scolarisation, de l'accès au travail salarié, du retard de l'âge au mariage, de la diminution de la fécondité, qui ont tous ces éléments réunis ensemble, et tous ces éléments se retrouvent en Tunisie, entre autres, peut-être même plus qu'ailleurs au Maghreb, ont abouti à un changement des rapports entre les hommes et les femmes. Et ce changement des rapports peut expliquer les phénomènes régressifs que l'on constate aujourd'hui, aussi bien dans le monde arabo-musulman qu'ailleurs, d'ailleurs, même si parfois dans cette partie du monde, il peut prendre des formes plus incandescentes qu'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il y a une réaction que j'appellerais une réaction viriliste et pas seulement masculine à cette révolution des rapports de genre, et elle prend entre autres les aspects d'une lecture particulièrement réactionnaire et régressive des grands textes sacrés sur lesquels elle s'appuie. Mais on pourrait trouver d'autres paramètres, d'autres manifestations de cette régression, en particulier la violence contre les femmes qui, je pense, a tendance à augmenter aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Alors, en Tunisie, la Tunisie est un petit peu une exception ou un cas particulier dans son environnement, dans son voisinage.
Merci, Monsieur Bourguiba.
Entre autres, pas seulement. Entre autres,
merci
bien sûr.
La mobilisation des femmes.
C'est pourquoi je disais entre autres.
Enfin, il leur a accordé le droit de vote assez tôt. Hein.
Non, attendez, le droit de vote était quand même assez tôt à l'indépendance. Je rappelle qu'aux premières élections de l'indépendance, c'est les élections de 1956 à l'Assemblée constituante, les femmes n'ont pas voté, elles n'avaient pas encore le droit de vote. Elles n'ont eu le droit de vote qu'en 1957. Il est évident que l'on doit au premier chef de l'État tunisien le fameux code du statut personnel qui a accordé aux femmes des droits juridiques qu'elles n'ont encore aujourd'hui nulle part ailleurs dans le monde arabe, à commencer par l'interdiction totale de la polygamie. Non. Par il y a une série de dispositions juridiques qui fait qu'effectivement, c'était un code très en avance. Non pas un code égalitaire. Attention, des lieux d'inégalité étaient encore très importants et il y a eu des améliorations qui ont été apportées à ce code au cours des 50 dernières années. Et qui fait effectivement des femmes tunisiennes, des femmes d'une enviable étrangeté, dirais-je, pour le reste du monde arabe, dans la mesure où aujourd'hui vous prenez une jeune femme en Tunisie, elle ne sait pas ce que c'est la polygamie. Elle ne sait pas ce que c'est. Ça fait plus de deux générations que ça n'existe plus. Maintenant, disons que même si au début de l'indépendance, ces droits ont été en grande partie octroyés, il n'y avait pas de mouvement féministe organisé, il y a une tradition revendicative en Tunisie, dont d'ailleurs un des emblèmes, c'est comme ça dans l'histoire, est un homme, Tahar Haddad, qui a écrit en 1930 « Notre femme dans la législation et la société » et qui est un manifeste pour la libération des femmes. Alors, vous me parliez du mariage, c'est la musulmane avec le non-musulman.
Musulman, voilà, c'est alors, dans le cadre d'une révolution anthropologique.
Oui, mais dans le code du statut personnel de 1956, il n'y a pas d'interdiction au mariage, aucune. Donc, juridiquement, ce mariage-là était autorisé. Un certain nombre de régressions a fait que, en 1972, une circulaire ministérielle a interdit le mariage de la musulmane avec le non-musulman. Et l'année dernière, effectivement, cette circulaire ministérielle a été abrogée et on est revenu, disons, à l'esprit du code du statut personnel qui fait que le mariage de la musulmane avec le non-musulman est aujourd'hui autorisé sans aucune restriction. Donc il y a une égalité dans la liberté de choix du conjoint qui est maintenant totale en Tunisie.
Là, on voit qu'effectivement, on y reviendra, c'est le profane qui prend le pas sur le religieux. Hein, on y reviendra
dans
plus
ce
tard.
Cas-là, c'est
dans
évident.
Ce cas-là, c'est ça.
Dans ce cas-là, c'est évident.
Asma Lamrabet, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous avez été directrice du Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc.
C'est non. Académique, une institution académique, chapeautée par le roi du Maroc en tant qu'émir des croyants, dont la première vocation est de promouvoir une production académique religieuse de l'islam officiel.
C'est-à-dire des normes,
oui,
entre
oui,
autres.
Pas de normes, non. Une production académique, donc d'interprétation, de compilation, c'est-à-dire interprétative, mais pas de normes.
Pas de normes.
Parce qu'on a un conseil qui est spécialisé, qui est le conseil des fatwas, des oulémas qui sont les seuls à émettre donc des fatwas au Maroc.
Alors, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que vous avez été quand même obligé de démissionner, oui, parce que précisément dans ce travail interprétatif, vous étiez largement intéressé à la question de l'héritage,
oui,
et au bout d'un moment, bon, ça a quand même déplu.
Ça a plus que déplu parce que parce qu'on m'a poussé à la démission en disant que j'ai touché au
tabou.
Appelle plus que les tabous, c'est ce qu'on appelle le sacré, donc les constantes fédératrices donc du pays. Et la charia, voilà, comme on dit, la charia. Et donc, c'était les limites donc de mon réformisme. Donc, je ne pouvais plus représenter cette institution puisque j'ai touché au texte sacré. Or, ça, c'est une question qui est très importante parce que elle est le pur produit, elle aussi, d'une interprétation millénaire, donc de toutes les écoles juridiques, où on a sacralisé justement une partie de la question de l'héritage, tout en omettant celle qui était très importante et qui était celle du testament. On a diversé sur le testament, hein, qui permettent aux défunts, c'est-à-dire d'avoir, de laisser aux descendants, donc, de choisir, donc, pour son testament. Et on a trois versets sur l'héritage, dont notamment la quote-part avec la demi-part pour les filles, et qui est, selon tous les oulémas et un consensus, expliqué par le fait que le frère, dans la fratrie, c'est lui qui prend en charge la sœur. Et puis, on trouve une lecture patriarcale et une disposition juridique qui explique que les dix versets sur le testament sont abrogés par un hadith, donc une tradition du prophète. Donc on n'a jamais vu ça. Là, le hadith normalement ou la tradition du prophète n'abroge pas donc des versets coraniques, notamment 10. Et le testament est une obligation, alors que les quotes-parts et la répartition, c'était des réponses à des contingences données, à des questionnements de l'époque où déjà avant l'islam, on donnait cette demi-part parce que les frères prenaient en charge. Alors aujourd'hui, le débat, c'est de dire maintenant que les femmes prennent en charge leurs frères des fois.
Oui.
Au Maroc,
oui,
on a 20% des familles marocaines qui sont prises en charge par des femmes, uniquement par des femmes. On fait quoi ? Et donc, moi, je dis tout simplement qu'il faudrait revenir à cette valeur fondamentale dans l'islam, qui est la justice. Ce verset-là, il est inégalitaire, oui, mais il est dans ses finalités juste, puisqu'il préservait ou il protégeait la femme en lui donnant cette demi-part, puisqu'elle ne participait pas au partage du butin, qu'elle n'avait pas cette responsabilité matérielle. Mais aujourd'hui, qu'on est devant un changement profond
de la
société, où elle est salariée, elle prend en charge le frère, le père et toute la famille, lui donner une part égale, c'est être dans les finalités justement de ce message spirituel.
Alors là, effectivement, on est dans le cas de figure où le sacré prend le pas sur le profane.
Oui, par contre, dans la question de comme a dit Sophie Bessis, sur les musulmanes qui n'ont pas le droit de se marier avec des non-musulmans, là, c'est le parce que des fois, le Coran est silencieux. Donc, il laisse des latitudes, des ouvertures où on peut interpréter comme on veut. Là, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé pendant 14 siècles. C'est-à-dire que le verset parlant du mariage des musulmans et musulmanes avec les non-musulmans est tout à fait égalitaire. Mais la lecture patriarcale a fait que le musulman homme a le droit de se marier avec la chrétienne et la juive, et que la femme musulmane, non, parce qu'elle est faible, parce qu'elle va être influencée par soi-disant le chrétien ou le juif, qui, selon cette interprétation, si la chrétienne est juive qui peut se marier avec le musulman est croyante, elle devient le chrétien et le juif devient mécréant. Donc je ne sais pas quelle est la logique dans tout ça. En tout cas, pour vous dire que c'est une contradiction par rapport à un message qui était très clair par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est justement toujours cette discrimination, cette dévalorisation des femmes qui n'ont jamais les droits que le Coran leur donne.
Pour cette histoire de demi-part, oui. Certaines féministes disent au fond, dans le Coran, la demi-part est le minimum que l'on doit donner aux filles.
Exactement.
Mais rien n'empêche de donner davantage.
Exactement. Voilà. Et beaucoup de penseurs réformistes, même de théologiens, ont
tout
parlé de ça.
Mais c'est le minimum obligatoire.
Et le reste du verset qu'on ne lit jamais, c'est donner tout ça après le testament.
Oui, mais le testament, comme vous dites, a été abrogé complètement par les hadiths.
Oui, ce qui est aberrant.
Alors, pour conclure sur cette question de l'héritage, où on voit effectivement que le sacré prend le dessus sur le profane, comment sortir de là? Est-ce que vous, votre lecture réformiste, était suffisante? Est-ce qu'au contraire, elle n'est pas active?
Oui.
Est-ce que vous avez été la caution, en quelque sorte, réformiste d'une institution, finalement, qui
Il faut dire que les féministes marocaines ont déjà, c'est-à-dire depuis les années 70-80, ont revendiqué l'égalité en héritage. Bien sûr qu'elles l'ont revendiqué à partir du référentiel universaliste. Et c'est à partir donc de 2004 avec le code de la réforme qu'on n'a pas pu, on a réformé pas mal de dispositions juridiques, mais on n'a pas pu toucher justement à l'héritage parce qu'il y avait beaucoup de pression et de résistance. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est la question tabou, mais la société est en train, et surtout les associations féministes aujourd'hui ont l'argumentaire religieux justement grâce à cette relecture réformiste et féministe qui explique donc que rien ne peut l'empêcher. Mais oui, j'ai été le bouc émissaire donc de tout ça. Ça prouve aussi la résistance donc d'une société qui a été retraditionnalisée, qui a été travaillée et c'est-à-dire minée par une idéologie complètement rigoriste et qui refuse de réfléchir et surtout d'utiliser donc la raison critique. Et c'est ça ce qui est important.
C'est là où on vient à VROS.
Oui, voilà.
Alors précisément, je vous propose une pause musicale puisque Thierry Favre, les journées d'AVROS, c'est aussi effectivement de la musique, du chant. Et cette année, donc, vous recevez
Pierre Spatini. Oui, c'est Pierre du Spatini. Débat d'idées et c'est aussi un rapport sensible et donc de la musique avec une création avec Pierre Spatini et Yeli Yeli.
Yeli Yeli, donc, est une chanteuse d'origine kabyle.
Absolument.
On les écoute.
Seren
Vous écoutez Religion du Monde, enregistré à Marseille, au Théâtre de la Criée, dans le cadre des Journées d'Averroès. Monique Beaujard, je me tourne vers vous. Vous êtes théologienne, je le rappelais, donc vous avez pendant un certain nombre d'années,
six ans,
était à la tête du service famille et société de la conférence des évêques de France. On pouvait dire que vous étiez une femme parmi les évêques. C'était une première puisque vous étiez à la fois laïque et femme. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Église catholique, finalement, contrairement aux apparences, évolue sur cette question de la place des femmes dans le gouvernement, j'allais dire, de l'Église?
Bien sûr, je ne peux pas dire le non, puisque après tout,
j'ai
exercé cette responsabilité et c'était la première fois. Et après, il y a eu 3 femmes directrices de services sur les dizaines de services que compte l'Église, enfin la Conférence des évêques. C'est donc des modestes progrès, mais qui ne règlent pas des questions de fond. Je dirais que cette expérience au sein de la Conférence des évêques, où j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir et où j'ai eu des rapports personnels excellents, ça, ce n'est pas en cause. Et à l'intérieur de la conférence, je pouvais dire ce que je pensais, j'étais écoutée. Là n'est pas le problème. Il n'empêche qu'au niveau de l'institution, à la place des femmes, d'abord, elle n'est pas pensée. J'occupais donc un poste qui jusque-là avait toujours été occupé par des prêtres. Voilà. Quand j'avais terminé mes 2 mandats, on était 4 directeurs à partir, 3 prêtres et moi. Ben, les 3 prêtres, automatiquement, vont avoir une autre proposition de poste, ou dans leur diocèse, ou dans leur congrégation religieuse. Et ben voilà, pour une femme, on n'avait pas franchement pensé qu'il y avait peut-être éventuellement une suite à donner. Il y a aussi, vous êtes à Lourdes, à la conférence des évêques pour l'assemblée plénière. Ben, vos collègues qui sont directeurs de service, mais qui sont prêtres, participent à la liturgie. Eh ben, vous n'avez pas de place. Il y a la photo à la fin, tout le monde y est. Ils n'ont jamais pensé à appeler une femme. Ce qui est le plus gênant, je pense, c'est que et ce qui m'a surtout frappé, c'est d'assister à ces assemblées plénières des évêques à Lourdes, où donc la première fois je me suis trouvée seule femme avec 120 hommes, hein, 120 hommes en noir, men in black. Ça leur manque pas. Qu'est-ce que ça dit de ces hommes? Que l'élément féminin ne leur manque pas. Je sais bien qu'ils sont célibataires et que, mais ça veut pas dire que c'est l'apport féminin. C'est la discussion. Alors, individuellement, encore une fois, parce que sinon je vais me faire taper dessus par mes amis évêques. Il y a des hommes parmi les évêques qui apprécient parfaitement, qui sont intéressés d'entendre cet apport féminin. Mais quand ils sont là réunis, ils sont dans une bulle. À l'abri de l'urgence du monde, rien ne les touche. Et alors, le fait qu'il n'y a pas de femmes, ça les effleure pas.
Vous voulez dire que c'est comme un club masculin, là?
Ah, c'est un club de vieux garçons, oui.
Je vois pas réagir à ça,
c'est
la
exactement
Marvette.
La même chose dans les institutions religieuses, pardon.
Au Maroc, hein.
Oui, au Maroc, où c'est un congrégat de d'hommes. Et ça ne les dérange absolument pas. Vous avez même des colloques. Attention, la thématique, c'est sur la question des femmes, mais il n'y a que des hommes qui vont en parler.
L'Église catholique a fait...
Je crois que c'est dans toutes les religions. Et ça, il y a quand même, des millénaires de tradition, de monopole du pouvoir derrière. Et donc, cette tradition de monopole du pouvoir a engendré une culture.
De l'autorité.
Une véritable culture. C'est un fait culturel, au sens presque anthropologique du terme. Vous parlez d'anthropologie tout à l'heure. Qui fait qu'on n'a pas besoin des femmes pour penser.
Vous voulez dire que c'est un dénominateur commun aux 3 religions, Monique Beaujard?
Oui, je connais moins bien.
Je pense que oui.
Mais
ça
a l'air.
Oui,
ça a l'air.
Je suis complètement convaincu.
Oui,
ça me semble effectivement un dénominateur commun des 3 religions, mais jusqu'il y a très peu, c'était un dénominateur commun dans le monde intellectuel, compris le plus gauchiste et le plus. Ça l'est encore. Il faut se battre pour
historique, pour économique, cet politique.
Donc, je veux dire le patriarcat, le machisme, le fait que les hommes ont la parole, ils considèrent ça totalement légitime, et que après tout, pourquoi est-ce qu'ils lâcheraient la parole puisqu'ils l'ont? Et il me semble que ce à quoi on est en train d'assister, c'est pour ça que je parlais de révolution anthropologique, c'est que, ça change. Et que, aux rencontres d'Averroès, sur chaque table ronde, il y a 3 femmes qui parlent et un homme. Et je trouve ça très intéressant parce que, à l'inverse, quand il y avait 3 hommes et une femme, ça surprenait personne. Voilà. Et je crois que c'est les évolutions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, dans la pensée, dans la prise de parole, dans la réflexion. Je crois que c'est une grande avancée anthropologique.
Je me retourne vers vous, Monique Beaujard. Est-ce que vous estimez que la religion chrétienne, finalement, a
malgré tout été émancipatrices pour la femme.
Oui, bien sûr, on peut citer des exemples comme par exemple, je parle plutôt de l'Église catholique, parce que quand même il faut dire qu'il y a des choses très différentes.
Entre les protestants,
et chez les protestants, il y a quand même des femmes pasteurs,
absolument.
Les anglicans aussi, où il y a même maintenant des femmes évêques, d'ailleurs dans l'Église luthérienne aussi, donc on ne peut pas mettre tout le monde...
Il y a l'Europe du Nord et l'Europe du Sud quand même.
Oui,
on peut accuser la latinité.
C'est plus complexe que ça, je dirais.
Bon, mais on va schématiser. Voilà.
L'émancipation, oui, par exemple, l'Église catholique a quand même insisté et obtenu que le consentement au mariage soit personnel pour les femmes, que ce ne soit pas décidé pour elles. Hein? Donc on exige le consentement de chacun des époux. Là, c'est une forme d'émancipation qu'on ne décide pas pour elles, mais que c'est elle qui doit prononcer ce oui. Maintenant, je crains que sur les sujets de statut des femmes, l'Église n'a jamais été précurseur. En tout cas,
ça serait.
Oui, cette voie prophétique qu'elle n'a pas toujours, parce que les voies prophétiques sont toujours rares. Mais par exemple, prenez quelqu'un comme le pape Léon XIII, qui en 1891 a fait cette encyclique Rerum Novarum, où il a pris fait et cause pour les ouvriers.
Là,
il
a
eu la condition ouvrière. Là, il a eu une voie prophétique. Il s'est mis à dos tout le patronat. Hein?
Oui.
Qui était pourtant très catholique. Mais ce même pape contestait l'idée même de mariage civil parce qu'il estimait que le mariage appartenait à l'Église et que l'État n'avait rien à dire là-dessus. Donc, sur la question des femmes, quand on relit même donc, tout ce qui est pensée sociale de l'Église, c'est très respectueux de la femme. On protège la femme. On va dire qu'il ne faut pas qu'elle ait besoin de travailler parce que sa place est irremplaçable.
C'est la mère qu'on en défend.
Et même les papes les plus récents qui ont fait des très beaux textes, on parle du génie féminin, on parle des qualités, etc. Mais on reste dans cette image que la femme, oui, elle est mère ou elle est vierge, mais la femme théologienne, la femme qui leur tient tête, qui leur dit qu'elle n'est pas d'accord, le vis-à-vis, justement, cette femme qui est là, créée normalement comme un vis-à-vis, voilà, ça c'est autre chose.
Mais la mère et la Vierge, voilà encore des choses communes aux trois monothéismes, bien entendu.
Oui, elle est, dans les interprétations aussi islamiques, vous avez la femme qui est toujours représentée en tant qu'épouse, en tant que
en
mère.
En tant qu'épouse et mère.
Oui. En tant que fille, mais jamais en tant que femme.
Alors, précisément,
jamais en tant qu'être autonome.
Oui, être autonome.
Ça. Précisément, ça n'a pas été abordé dans la table ronde tout à l'heure, mais il y a un sujet qui est quand même tout à fait intéressant et fort dans les relations hommes-femmes, c'est le rapport amoureux. En Algérie, Sophie Bessis vous me dit tout à l'heure, mais aussi en Tunisie, il faut parfois aller dans une voiture pour s'embrasser, c'est pas si facile d'être amoureux au Maghreb.
Pour une raison très simple, c'est qu'en
Alors, sont les textes là aussi ?
Dans les trois pays du Maghreb, Asma le Marab sur les textes répondra beaucoup mieux que moi. Moi, je réponds sur la loi actuelle.
Sur la loi, oui, c'est la loi.
Sur la loi actuelle. Les relations sexuelles hors mariage sont illicites. Et
passibles. Et passibles. Hein.
Passibles de sanctions, de prison. C'est-à-dire que le flic qui voit deux adolescents s'embrasser peut les amener au poste. Voilà. Ça, c'est, il a parfaitement le droit de les amener au poste. Et moi, je dis la chose suivante. Est-ce que nous voulons continuer à être des peuples d'anormaux ? Pourquoi je dis ça ? L'âge moyen du mariage des femmes, du premier mariage des femmes en Tunisie, est de 29 ans. L'âge moyen au premier mariage des hommes est de 32 ans.
Ah oui, aussi tard que ça pour les femmes, 29.
29 ans, 29 ans et demi pour les femmes. Voilà, ce qui explique la baisse de la fécondité, etc. Alors, de deux choses l'une. Soit les Tunisiens et les Tunisiennes n'ont aucune relation sexuelle avant 29 et 32 ans. Donc c'est un peuple qui a des problèmes. Soit alors, toutes les relations sexuelles à moins de 29 ans et 32 ans sont des relations sexuelles illicites. On vit dans
la schizophrénie.
Schizophrène
oui.
Totalement.
Oui.
Totalement. C'est-à-dire qu'on fait comme si tout cela était interdit. Bien entendu, les relations sexuelles existent hors mariage, bien entendu, elles existent entre adolescents, bien entendu, mais tout cela obère, cela donne, à mon sens, une relation à l'amour, un rapport à la relation amoureuse totalement perverti. On a peur, on le fait en cachette. Et vous vous rendez compte du rapport à l'amour que peuvent avoir les jeunes quand tout est fait dans la peur de la punition, dans la cachette, dans l'illicite, dans l'interdit. Donc, je pense que c'est très grave et que il serait temps que ces sociétés acceptent de changer de logiciel dans ce domaine-là. Et c'est pas demain la veille.
Asma Lamrabet.
Oui, alors, sur cette question de relations sexuelles en dehors du mariage, je crois que toutes les traditions monothéistes sont d'accord. C'est le mariage en tant que structure sociale, normée, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le Coran parle d'adultère, c'est une question d'adultère, c'est-à-dire qu'il y a conflit au niveau du mariage et que la femme ou l'homme trompe le mari. Donc la punition qu'on nous sort aujourd'hui, par exemple, aux libertés ou relations sexuelles en dehors du mariage, elle n'existe pas dans le Coran.
Parce que c'est avant le mariage,
oui,
pas
c'est
dans
ça.
Le mariage.
C'est ça, voilà. Mmh. Donc c'est, ce qui est intéressant de voir, c'est que le Coran se focalise sur le mariage, sur les relations sexuelles.
Dans le cas du mariage.
Dans le cas du mariage, il ne parle pas, donc.
C'est des même relations. Pas évoqué, quoi.
C'est même c'est... pas évoqué, donc c'est des latitudes qui sont, voilà, qui sont laissées à chaque contexte.
Ah, vous voulez dire, Asma Lamrabet, que ça permet une attitude, ça permet un...
Ça permet
surtout une marge.
Une marge, moi je dirais de respect de la vie privée des gens et des libertés individuelles des gens. Parce que ce silence-là, il faut le respecter, il faut l'interpréter aussi aujourd'hui. Et donc arrêter de dire, comme dit Sophie Bessis, de vraiment de promouvoir une hypocrisie, une schizophrénie aujourd'hui qui fait que surtout nos jeunes sont complètement perdus.
Et il y a une... C'est-à-dire, cette schizophrénie...
Elle est, vous avez des relations sexuelles, c'est-à-dire tous les jeunes sont en pleine relation sexuelle, mais le problème c'est qu'avec ce machisme ambiant, quand le jeune va venir se marier, il va vouloir une vierge, il va vouloir une femme qui n'a jamais, parce que l'imaginaire religieux est là, lui disant que voilà, il te faut une vierge, alors que, répétons-le, le Coran ne parle jamais de femme vierge pour le mariage, ça aussi comme condition. Donc voilà, c'est le Coran offre des latitudes, bien sûr qu'il est assez strict sur le mariage et sur les relations sexuelles en mariage, mais il y a d'autres latitudes qui sont permises et qui permettent de les contextualiser aujourd'hui et pour nous sortir de cette schizophrénie ambiante.
Monique Bojard.
L'Église catholique a toujours parlé aussi que les relations sexuelles, c'est dans le mariage. En dehors, c'était
interdit.
Et il a fallu attendre 2016... le texte du pape François après le synode sur la famille, donc la joie de l'amour, où pour une première fois on commence à avoir une appréciation positive de ces relations, je dirais, entre jeunes, parce qu'on y voit qu'ils peuvent encore cheminer vers le mariage. Mais c'est la première fois qu'on trouve dans un texte officiel une appréciation positive. Ce qui est, parce que bien évidemment nos sociétés européennes ne vivent pas le même type d'hypocrisie, puisque c'est globalement admis. Enfin, la schizophrénie pour les catholiques fait quand même qu'on a complètement mis de côté ce que l'Église dit sur le sexe. Et ce qui est dommage aussi, parce que du coup, il n'y a plus de réflexion. Alors que la sexualité a besoin aussi d'être, oui, je dirais, réfléchi et humanisé. Et que néanmoins, une réflexion chrétienne fine, je dirais, peut aider les gens à mieux vivre leur sexualité.
Oui. Thierry Favre.
Il y a effectivement ce qui se joue dans les textes sacrés ou profanes. Il y a aussi ce qui se joue dans les valeurs et dans les imaginaires. Et en vous écoutant, il y a quand même une notion qui m'est vraiment surgie comme un élément central de ce qui se joue, notamment dans le monde méditerranéen, sur lequel avait beaucoup travaillé l'anthropologue Germaine Tillon dans Le Harem et les Cousins, cette question de l'honneur.
Oui.
Et de l'honneur qui est toujours mis sur le dos des femmes, comme si les hommes, entre les cuisses des femmes. Et bon, l'honneur des hommes, c'est la virilité. Et donc là, il y a à déconstruire aussi ces systèmes de valeurs qui sont à l'œuvre et qui, on sait bien, les crimes d'honneur, les mariages d'honneur,
très méditerranéen,
en Sicile, en Albanie, qui n'ont rien à voir avec ce que montrait très bien d'ailleurs Germaine Tillon, avec des catégories religieuses et notamment celle de l'islam. Donc là, il y a quelque chose qui, clairement, cette notion-là, dans les sociétés contemporaines, c'est en train de se déplacer. Même si on a des réinventions dans les banlieues de rapport à l'honneur et de machisme, qui est indiscutable. Enfin, il y a quand même des mouvements, là aussi, de libération et d'affirmation des femmes qui ne se laissent pas faire, tout simplement. Et qui disent, mais allez, votre honneur, allez vous faire voir. Ça n'a tout simplement plus lieu d'être. Et je crois que chercher l'honneur est profondément déplacé. C'est pour ça que, voilà, Germaine Tillon, Le Harem et les Cousins nous rappellent combien ces dimensions anthropologiques, de valeurs, d'imaginaire sont importantes.
Sophie Bessis, oui.
Il y a quelques années, une jeune fille qui n'avait certainement jamais lu Germaine Tillon et qui a été la première féminine tunisienne avait fait un scandale en Tunisie parce que sur sa page Facebook, elle s'était montrée torse nu. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit ? C'était la formule qu'elle avait écrite en arabe sur son torse nu. C'était « Mon corps m'appartient, il n'est l'honneur de personne ».
Asma Alamrabet, que disent les maires au Maroc ? Là, vous parlez du comportement des jeunes, effectivement, qui, bon, voilà, essaient de négocier entre les interdits. Que disent les mères ?
Mais qu'est-ce qu'elles peuvent dire si elles n'ont pas eu d'autre alternative que cette éducation qu'elles ont reçue ? C'est-à-dire une éducation patriarcale où elles étaient le centre. Donc de la famille, le centre de l'honneur dont on parle aujourd'hui, elles étaient la transmettrice de foi, de l'identité religieuse, et donc on leur a offert aucun autre choix que celui de perpétuer justement cette culture-là.
Et les pères ?
Ben, les pères, c'était les chefs de famille, c'était celui qui devait perpétuer aussi ce machisme, ce virilisme ambiant, et qui donc ne pouvait qu'être d'accord. Et donc la femme, comme dans l'interprétation patriarcale, son devoir premier est d'obéir à l'homme, comme dans l'idéologie politique on doit obéir aux gouvernants. C'est une logique de despotisme familial.
Mais alors qu'est-ce qui relève effectivement du patriarcal, qu'est-ce qui relève du religieux?
Écoutez, le patriarcat est déjà, il est politique, il est économique, il est religieux, il est imbriqué, il est socio-économique. Aujourd'hui, c'est des rapports de domination. Donc, moi, j'estime que cette question des femmes dans les pays arabo-musulmans est une question qui est multifactorielle. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est due uniquement, par exemple, au patriarcat religieux. C'est vraiment... Elle est au centre, donc, c'est-à-dire, elle cristallise toutes ces défaillances qu'on a autour de nous, de la précarité socio-économique. Ce sont les femmes qui, aujourd'hui, au Maroc, c'est-à-dire portent l'informel, l'économique informel. Ce sont les femmes qui travaillent dans les champs, ce sont les femmes qui ont des doubles, triples journées de travail. Donc voilà, c'est imbriqué. Bien sûr, le religieux est transversal à toutes ces problématiques, mais aujourd'hui, faire un travail sur tout ça, et aussi sur le religieux, parce qu'il est ce socle-là, je crois qu'il est très important de le faire aujourd'hui, mais bien sûr avec les réformes qui doivent se faire sur le politique aussi. Parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas réformer le religieux si on n'a pas réformé aussi le politique.
Mais ça va aussi dans l'autre sens, malgré tout, non ?
Les deux vont en parallèle.
Oui.
Les deux vont. Et puis les séparer aussi, parce qu'il y a cette imbrication et cette instrumentalisation du religieux par le politique qui est millénaire, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui doit aujourd'hui cesser pour préserver justement la spiritualité. Et moi, en tant que musulmane croyante, c'est ce que je revendique. C'est cette préservation, c'est-à-dire cette protection, me libérer de ce politique qui m'instrumentalise.
Et du politique et qui instrumentalise le religieux. Voilà, c'est ça. Et alors, comment précisément le réformisme peut-il se tailler une place là-dedans, dans cet univers complètement assez verrouillé ?
Il a émergé déjà. Le réformisme est une histoire évolutive dans l'histoire de la civilisation islamique. Il n'est pas nouveau, mais il a toujours été combattu. Pourquoi ? Parce que il a été toujours porté par des penseurs, hommes et femmes, libres, indépendants. Il n'a jamais été porté par des institutions religieuses. Et c'est ça le gros problème. C'est que ce sont des penseurs isolés qui ont... Et donc, aujourd'hui, ce réformisme reste minoritaire. Reste minoritaire parce qu'il a devant lui, je dirais moi, un tsunami idéologique, wahhabiste notamment, qui a les moyens de transmettre, les moyens de diffuser son idéologie complètement rigoriste.
C'est exactement ce contre quoi il s'agit de lutter. Je pense que les rencontres d'Averroès, c'est un espace de débat en ce sens-là. Et il se trouve que est né l'année dernière, dans le cadre des rencontres d'Averroès, avec le lieu où je travaille aujourd'hui, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, on a créé une chaire Averroès, dont un grand juriste et philosophe du droit tunisien, Ayad Ben Achour, est le titulaire. Et justement, avec quoi comme idée ? De travailler sur l'universalité de la norme démocratique et de la religion islamique, et de créer une école de pensée qui soit justement très loin de cette vision wahhabite dominante, dont l'influence est dominante, dont les moyens sont absolument considérables, et qui a aussi largement influencé l'islam européen, je pense notamment à l'islam belge, et qui a produit des désastres. Et donc de ce point de vue, je crois qu'il commence à y avoir une véritable prise de conscience que nous avons besoin d'une pensée critique pratique dans l'islam contemporain, dans les sociétés arabes et musulmanes, mais dans les sociétés européennes également, parce qu'il s'est passé, on le sait bien, nous sommes pas loin du 13 novembre, bien des violences, bien des dérives, bien des lectures, non seulement salafistes, mais qui sont devenues violentes et djihadistes. C'est très puissant comme courant, mais il y en a d'autres. Et c'est ça que je crois qu'il s'agit aujourd'hui d'accompagner, c'est de déployer ces nouvelles écoles de pensée critique dans l'islam contemporain, parce qu'il y a un horizon d'attente des jeunes générations, qui veulent des lectures qui soient tout à fait compatibles avec leur mode de vie. Ce que Niloufer Guelleh, qui a fait un livre sur les musulmans européens, appelle les musulmans ordinaires. Et ils sont pas, je veux dire, contre les principes démocratiques. Ils sont absolument. Et c'est là où je crois qu'il y a un grand enjeu lié aux interprétations.
Oui, Sophie Bessis.
Je crois qu'il faut revenir, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, sur le lien extrêmement étroit entre le despotisme domestique et le despotisme de l'État. C'est quelque chose, ce sont des parallèles, et il ne peut pas y avoir d'État démocratique et d'incarnation dans la vie publique des principes démocratiques si le pater familias est un despote à la maison. Ce sont deux systèmes qui sont parfaitement liés. Et la démocratisation de la sphère domestique est une des conditions de la démocratisation de la sphère publique. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Et une des raisons pour lesquelles la démocratisation est extrêmement lente, disons, dans les pays du sud de la Méditerranée, pour employer une formule douce, eh bien, c'est que la sphère privée est encore dominée par un patriarcat très puissant.
Très rapidement, je rebondis sur ce que dit Sophie, et c'est exactement ce qu'a dit Abd El Jabri, qui est un averroïste très connu.
Il était là lors de la première édition des Rencontres d'Averroès.
Oui, que Dieu ait son âme. Et lui, là, il a mis le doigt sur un concept qui est très important, qui est celui de l'obéissance, et qui s'appelle en arabe Atta'a. Et donc ce concept-là, fabriqué par les Omeyyades, depuis ce temps-là, c'est le socle justement du despotisme politico-religieux, celui du concept de la soumission Ta'a. Ça s'appelle Ta'a.
Aujourd'hui, ce qui est très intéressant,
ça veut dire soumission des femmes aux hommes et soumission des hommes aux gouvernants.
Mais moi, je pense que sur le plan symbolique, et j'en termine avec cela, c'est que en Tunisie d'abord, et ensuite au Maroc, en Tunisie en 1993 et au Maroc avec la réforme de la Moudawana de 2004, le devoir d'obéissance de la femme envers le mari
a été abrogé,
a été supprimé. Exactement. Et remplacé par le devoir de respect mutuel entre les époux.
Mais Asma Amrabet, et après je vous donnerai la parole, la question de l'obéissance, de la soumission, elle est quand même inhérente à l'islam.
Non, c'est la question de la soumission
à Dieu.
La soumission à Dieu doit être comprise comme une libération. On se soumet à un créateur qui nous, c'est une soumission qui nous libère de tous les matérialismes, justement, qui soit
despotisme. À la loi,
oui,
mais à la foi, mais pas à la loi.
Voilà,
oui.
À la foi. Et donc, qui nous libère, justement, c'est une libération. On ne se soumet qu'à Dieu, qu'à ce créateur-là, et pas du tout de soumission ni un despotisme politique, ni un économique, ni au pouvoir, etc.
Soumission à des règles aussi. Il y a quand même le haram et halal.
C'est la lecture rigoriste, c'est la lecture légaliste qui a fait ça. La lecture juridique, c'est elle qui a réduit toute cette dimension humaniste et éthique à justement au licite et au illicite. Et ça, ce sont des versets, c'est vraiment sur 6236 versets, ce sont à peu près 500 versets et qui sont conjoncturels, qui n'ont rien à voir avec cette dimension éthique.
Monique Bojard, je voulais prendre la parole.
Sur ce que disait Sophie Bessis, parce qu'en effet, en France, on voit très bien que la démocratisation est allée avec une démocratisation de tout le droit de la famille, dans les années 60, a été profondément modifié. Et justement, vous parliez avant de questions d'héritage, avant les enfants adultérins n'héritaient pas, des choses comme ça. D'ailleurs, le mariage entre catholiques et protestants dans les années 50, c'était pas tellement
pas
possible.
Très bien vu.
Donc, je veux dire, c'est pas si loin tout ça pour nous. Mais en fait, une démocratisation assez radicale des rapports de famille change complètement la façon.
L'habitus politique.
Voilà, exactement.
Sinon, pour ce qui est de la soumission, Saint Paul demande aussi la soumission. C'est justement les versets de Saint Paul qu'on conteste le plus, qui ne correspondent
évidemment pas
à l'attitude du Christ.
En même temps, Saint Paul demandait aussi une forme de libération. C'est un peu contradictoire chez Saint Paul.
Non, pas pour les femmes.
Saint Paul dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme.
Et oui, c'est quand même ce qu'il dit.
On est tous enfants de Dieu. Et donc là, il y a vraiment l'égalité.
Mais c'est après, dans des, ça se gâte. Hein.
Mais on dirait que, enfin, certains spécialistes disent que c'est pas Saint-Paul, que c'est des gens qui ont rajouté
c'est des choses qui sont extrêmement, c'est-à-dire, c'est du, enfin, copier-coller, je veux dire, qu'on peut retrouver partout. On a des versets, donc, enfin, pardon, des traditions du prophète qui sont extraordinaires et qui dit que les hommes et les femmes, les hommes sont, les femmes sont les égales de l'homme. Et puis vous avez d'autres traditions qui disent elles sont dénuées de raison et de foi.
Alors ça, les ça hommes veut... ont prééminence sur les femmes.
Et les hommes sont ça c'est un verset coranique qui
c'est
a été
un verset, bien voilà sûr,
et c'est pas du tout l'autorité, c'est une prise en charge matérielle. Mais qu'est-ce que fait l'interprétation patriarcale? Elle marginalise les femmes sont les égales des hommes
et elle fait le tri
voilà,
bien sûr.
Et elle met en exergue la tradition qui dit elles sont dénuées de raison et de foi.
Des interprétations,
très
encore et toujours.
D'ailleurs.
Pour conclure cette table ronde sur les hommes et les femmes en Méditerranée, les hommes auraient tout à gagner si effectivement il y avait une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, s'il y avait plus de liberté. Alors, non, Sophie Bessis.
Évidemment.
Rapidement, on a 8 minutes.
Très vite, bien entendu, les hommes sont aussi victimes de la société patriarcale.
C'est plus heureux quand même.
L'injonction au virilisme n'est pas une injonction toujours facile. Mais tout de même, il vaut mieux être dans la position du dominant que dans la position de la dominée. Et ils ont, si aujourd'hui il y a des réactions aussi importantes à cette révolution des rapports de genre dont nous parlions, c'est qu'ils ont aussi beaucoup à perdre.
Mais ils ont peut-être aussi à gagner quand même malgré tout. Plus heureux malgré tout quand on est...
Il faut les en persuader.
Alors, Monique Beaujard. Et puis après, Asma Lamprabet.
Oui, il y a quand même aussi des personnes qui expliquent que si les hommes sont moins intéressés par le mariage aujourd'hui, c'est justement en Occident parce qu'ils ont perdu ce pouvoir et que du coup, partager les tâches domestiques, ça ne représente pas grand intérêt. Mais c'est un peu pessimiste. Je pense qu'ils peuvent néanmoins avoir un vrai intérêt à avoir une relation d'amour avec une femme.
C'est une vision un peu étroite quand même, effectivement, le ménage. Alors,
moi,
Asma Lamprabet.
Je garde espoir et je vais de ce sentiment de humaniste qui promeut cette égalité et qui pense que en libérant les femmes, on va libérer les hommes. Et c'est les femmes qui vont libérer les hommes.
Alors, Thierry Fabre.
Je n'aurais justement rien à ajouter avec cette idée. Je crois vraiment que c'est une belle promesse et que c'est une perte illusoire de pouvoir. Et je crois que c'est au contraire, ça va changer la configuration des relations qui seront beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus fertiles pour l'avenir.
Marx disait, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. On peut changer la formule et dire un sexe qui en opprime un autre ne saurait être libre.
Voilà. Alors, Sophie Bessy, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à tous les quatre, Sophie Bessis, Thierry Favre, Asma Lamrabet, Monique Beaujard pour votre participation à cette table ronde. Merci aux Journées d'Averroès de nous avoir invités au Théâtre de la Criée pour son accueil. Religion du Monde était présentée par Geneviève Delru, prise de son et réalisation, Médard Chablaoui, Olivier Raoul. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.